Cœur de lettres avec Marie-Lou Brousseau.
Mesdames et Messieurs, bienvenue au Cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous durant la prochaine heure avec Vital Côté à la mise en onde. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir de nouveau le philosophe et auteur français Fabrice Midal qui vient tout juste de sortir un livre, encore une fois, au titre très évocateur « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». Cet ouvrage a été publié aux éditions Édito. Et pour commencer cette émission-là, j'ai envie quand même de vous dire que vers l'âge de 25 ans, j'ai vu un film sur la vie de Georges Gurdjieff qui a complètement bouleversé ma vie. Et le titre de ce film-là, c'était « Rencontre avec des hommes remarquables ». Et je me suis dit par la suite que je ferais ça dans ma vie, c'est-à-dire de rencontrer des hommes remarquables et qui permettent des changements personnels et sociaux pour qu'un monde meilleur puisse advenir. Et mon invité aujourd'hui fait partie, en tout cas pour moi, de ces êtres remarquables par sa démarche qui permet justement de créer des changements en nous et donc nécessairement dans le monde. Fabrice Midal, il est philosophe, il est écrivain, il est un des principaux enseignants de la méditation en France et à titre d'éditeur, il dirige des collections comme L'Esprit d'ouverture aux éditions Bellefond et Évolution chez Pocket. Bienvenue à Radio VM.
Merci beaucoup.
C'est vraiment un plaisir que de vous recevoir de nouveau. Et ce livre-là, évidemment, comme je le disais, hors d'onde, c'est un livre qui est fascinant et qui est vraiment, je pense, nécessaire dans la société. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Et bien sûr, on dit de ce livre-là qu'il est extrêmement libérateur et déculpabilisant. C'est à partir de quel constat que vous avez décidé d'écrire ce livre-là?
Il y a plusieurs constats. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, on est tous pris dans une forme d'injonction qui fait qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'on n'en a jamais fait assez, qu'il faudrait toujours en faire plus. On n'a jamais fini de répondre à tous ces courriels. Et donc, y a un sentiment de ne plus pouvoir y arriver. Et le projet de pouvoir tout contrôler, contrôler toute sa vie, contrôler tout ce qu'on a à faire, on en voit bien, je crois, tous aujourd'hui la limite. Et donc, foutez-vous la paix, c'est essayer de revenir très radicalement et très simplement à la nudité de notre existence, au simple fait d'être un être humain. Et je crois qu'on est tellement pris par tout ce qu'on a à faire qu'on a perdu juste le bonheur d'être. Et donc, c'est un peu ça l'engagement. Je crois que ça a été aussi... J'ai été renforcé dans mes analyses en me rendant compte des dernières enquêtes de l'OMS sur l'étendue des burn-out, qui me semble vraiment la maladie de notre siècle. C'est une maladie très, très singulière quand on y réfléchit un peu. Là, c'est un peu le philosophe qui parle. On fait peu l'analyse que le burn-out vient d'une maladie de l'hyperperformance. C'est la première fois que des gens tombent malades et sont en danger parce qu'ils ont trop voulu bien faire. C'est pas parce qu'on n'a pas bien fait, c'est pas parce qu'on a été négligent, agressif, mais c'est juste qu'on a tellement voulu bien faire qu'on n'a plus respecté la vie en nous.
Et on s'est épuisé dans le processus.
Et on s'est absolument épuisé dans le processus en voulant trop bien faire. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette société dans laquelle, à force de vouloir bien faire, on oublie l'essentiel. Et donc ça a beaucoup renforcé ma conviction que ce qui pouvait aujourd'hui libérer les gens, faire qu'il y ait un vrai changement, qu'ils aillent mieux, qu'ils soient plus heureux, c'est de complètement changer la perspective, c'est pas prendre de nouveaux mécanismes, de nouveaux outils, mais de se foutre la paix. Et donc là, il y a vraiment une conviction très profonde, nous ne manquons pas d'outils, nous sommes même submergés d'outils, mais nous avons oublié quelque chose d'absolument beaucoup plus fondamental, comment nous foutre la paix, comment retrouver la source de notre humanité en nous, c'est tout simplement.
Et quand vous dites « foutez-vous la paix », qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça veut dire de lâcher prise?
Alors, je trouve que l'expression « foutez-vous la paix », à la différence de lâcher prise, il n'y a pas à réussir ou à rater. Moi, quand je suis un peu en colère et on me dit « lâche prise », je m'énerve encore plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si on me dit « lâche prise », ouh là là.
Il y a déjà un stress, ça installe
voilà,
un stress.
Voilà, mais « fous-toi la paix », Il y a quelque chose juste. On le fait tout, on le fait. Il y a pas besoin de vérifier si on l'a fait. On se demande pas est-ce que j'ai vraiment réussi à lâcher prise. Donc foutez-vous la paix. J'aimais bien l'expression. C'est un peu, c'est extrêmement direct et un peu populaire. Mais je trouve que du coup, ça parle sans passer par l'analyse et la réflexion. On sent. Et je trouve que ça, c'est...
C'est pas rationnel.
Oui, comme, j'aime bien aussi quand vous avez, vous, l'expression « se calmer le pompon ». Je trouve que ça, c'est pas mal. Donc,
oui, ça, c'est très québécois. Oui, on se calme le pompon et ça fait du bien.
Oui, et je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Quelque chose de très... Et le fait que quand on dit une expression comme ça, on se calme le pompon, on n'a pas besoin de réfléchir. On sent « ah oui ». On est comme autorisé à laisser tomber la perspective de tout vouloir comprendre, rationaliser, être efficace, être juste, qui tout ça est juste, mais nous voulons tellement qu'on perd de vue ce souffle absolument vivifiant de la vie.
Et en même temps, le mot pompon à lui-même est très ludique.
Absolument.
Tout à fait. Le titre de votre premier chapitre m'a en tout cas fait sursauter un peu parce que vous avez quand même écrit plusieurs livres sur le sujet de la méditation. Vous êtes... Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment, mais en tout cas, entre guillemets, un grand méditant. Et le titre de ce chapitre-là s'intitule « Cessez de méditer, ne faites rien ». Bon, évidemment, quand on lit le chapitre, on comprend mieux votre réflexion, mais peut-être nous l'expliquer davantage en nombre.
Alors, bon, évidemment, la méditation, c'est une des grandes passions de mon existence. Je l'enseigne. Du reste, c'est une des raisons de ma venue ici. Il va y avoir une antenne de l'École occidentale de méditation qui va s'ouvrir à Montréal. Et j'en suis vraiment très content. Je crois que la méditation, c'est vraiment extraordinaire. Ça peut vraiment aider les gens. Mais le problème, c'est que les gens ont l'impression que c'est pas pour eux, que c'est un truc compliqué, qu'il faudrait réussir à faire une performance quand on pratique la méditation. Je me suis rendu compte, je dirigeais un séminaire. Une fois, il y avait quelques centaines de personnes qui étaient là. Et puis j'ai demandé combien d'entre vous ont le sentiment de ne pas réussir à méditer. Et plus de la moitié des gens ont levé la main. Et je me suis dit, mais c'est quand même complètement dingue. Méditer, il n'y a rien à faire, et vous avez l'impression de ne pas réussir
à ne rien faire,
vous foutez juste la paix. Et je me suis rendu compte là qu'il y avait un vrai problème. Et les gens ont le sentiment, dans tout ce qu'ils font, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur et vouloir faire les choses comme un défi. Et c'est ça qui nous empêche de faire les choses. Mais la méditation, mais aussi de préparer un repas pour des amis, de s'occuper de nos enfants... Toutes les choses de la vie, si on commence à se mettre la pression, il faut qu'on fasse ça de manière vraiment parfaite, ça finit par devenir une torture. Donc dans le chapitre, j'essaie de dire, cessez de vouloir méditer au sens de vouloir répondre à toutes les idées que vous avez sur la méditation. Ne faites rien pendant quelques minutes. Prenez juste rendez-vous avec vous-même. Ce qui me semble tellement profond de la pratique de la méditation, c'est juste de prendre rendez-vous avec vous-même. On pourrait dire autrement. Qu'est-ce que c'est méditer ? C'est partir quelques minutes en vacances. Est-ce que si vous partez quelques minutes en vacances, vous êtes angoissé de est-ce que vous allez bien partir en vacances ? Non, vous vous foutez la paix, vous partez juste en vacances. Mais maintenant, si on dit aux gens méditer, ah, comment il faut faire ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? À quel moment il faut le faire ? Non, mais vous partez en vacances pas dans 5 minutes dans votre journée. Vous pouvez prendre 5 minutes de vacances dans votre journée.
Et
c'est absolument central.
Mais il y a aussi ce concept d'obligation.
Ah, c'est horrible.
L'obligation de faire la méditation à telle heure, tel jour, à tel moment pour être entre guillemets, aussi efficace.
Voilà, et donc tout ça, vous mettez le doigt sur une chose qui me gêne beaucoup, c'est aujourd'hui, on voudrait que la méditation soit un outil pour être plus efficace. Et moi, je pense que c'est notre obsession de vouloir être efficace qui nous empêche de l'être. Vous voyez, c'est l'inverse. On veut tellement être efficace qu'on perd, on a perdu le sens de la confiance, de la bienveillance... de l'intuition, de la créativité, du hasard, de la rencontre, tout ça disparaît. Et je crois que ça pose un vrai problème.
Oui. Et vous dites que lorsqu'on s'emmerde, on cesse d'être vivant, mais en même temps, la méditation, c'est juste de laisser être, c'est de vivre, c'est de respirer, c'est juste d'être en présence de ce qui est dans le moment.
Absolument. Être vraiment en présence et pouvoir à nouveau s'émerveiller d'être un être humain. Et je crois que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à juste se réjouir du bonheur d'être un être humain, tout de suite inquiet de toutes les choses nouvelles qu'il faudrait réussir à faire par rapport à tout ce qu'ils ont ingéré, intégré d'objectifs qu'il faudrait réussir. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est en se foutant la paix, on ne fait, on ne renonce pas à agir. C'est pas comme si je dis, mon livre, c'est pas rester dans votre lit, ne faites plus rien de votre vie, mais foutez-vous la paix de telle manière que vous allez pouvoir beaucoup mieux faire les choses. Moi, je suis un homme qui est très très actif, je fais plein de choses, mais en les faisant partir de la perspective où on se fout la paix, c'est beaucoup plus heureux, c'est beaucoup plus libre.
Mais est-ce que c'est pas difficile de dire ça à des gens justement qui sont très rationnels et ça peut juste être pour eux un concept mais qui ne s'applique pas, qui est très difficile à appliquer dans leur propre vie?
Je pense que les gens qui sont très rationnels aujourd'hui sont obligés de se rendre compte que cette perspective est irrationnelle. Le fait d'être dans l'obsession de la rationalité est irrationnel. Le travail des plus grands scientifiques, les travaux des plus grands économistes montrent que vouloir être rationnel au prix d'une simplification extrême de la réalité n'est pas être rationnel. Il y a une complexité du réel qu'il nous faut reconnaître. Et il est rationnel d'accepter que l'homme ne peut pas tout contrôler dans sa vie, qu'il y a du hasard, qu'on peut tomber malade, qu'on peut être pris dans les embouteillages, qu'il peut pleuvoir. Vouloir que tout soit parfaitement rationnel, c'est ne pas comprendre le jeu du réel et le jeu de la vie. Moi, j'aime beaucoup le travail du grand économiste, prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui a fait beaucoup un travail en montrant que les décisions économiques des gens ne sont pas fondées sur la seule rationalité et que nos schémas économiques étant construits à partir d'une fabrication d'un être purement rationnel sont irrationnels. Alors, on lui avait demandé, par exemple, son travail avait été commencé à être connu parce qu'on lui avait demandé, un grand cabinet de finances avait demandé qu'il établisse des algorithmes pour être plus rationnel dans l'attribution des primes de fin d'année de ceux qui avaient fait les meilleures performances. Alors il a travaillé sur les 15 ans de toutes les archives pendant de nombreux mois et sa conclusion c'était « vous ne récompensez chaque année que le hasard ». La complexité est tellement grande que personne ne peut avoir une vision d'ensemble de cette complexité. Donc vous croyez que vous récompensez les meilleurs, mais vous ne récompensez pas les meilleurs. Et je crois que ça, c'est être rationnel, vous voyez ? Donc je pense qu'aujourd'hui, dire « foutez-vous la paix », c'est être rationnel. C'est dire « il y a une limite à une rationalité qui est le fait que je ne peux pas absolument tout connaître. Il y a une limite à la connaissance et à la capacité de mon action. Je ne pourrais, mais c'est tout simple, je ne peux pas le soir avoir répondu à tous mes mails, avoir fait tout ce que j'avais à faire, avoir été la mère ou le père parfait. Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je me fous la paix, je m'autorise à ne pas être parfait, je m'autorise à être un être humain. Ouais, c'est absolument, absolument central. C'est vraiment, je pense, que ces questions qui étaient des questions qui pouvaient sembler il y a des années, des questions liées à une discussion spirituelle, un peu à part, sont des questions qui aujourd'hui, personne ne peut penser être hors de devoir affronter ces questions. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est vraiment une question absolument centrale. Nous pensions que les gens allaient être de plus en plus heureux, on se rend compte qu'au contraire, le niveau d'insatisfaction grandit dans les sociétés occidentales, le taux de suicide augmente chez les jeunes. Ces questions-là imposent de penser autrement le modèle d'éducation, le modèle de vie ensemble que nous essayons de faire. Et c'est ça qui est l'enjeu de ce livre « Foutez-vous la paix », c'est aussi retrouver le pouvoir en chacun d'entre nous d'agir dans nos vies et de changer les choses dans le monde. Donc je crois que c'est vraiment un combat absolument central. C'est comme si aujourd'hui nous n'avions plus l'autorisation d'être des êtres humains. On pourrait dire que nous vivons du matin au soir pris dans une sorte de propagande dont on ne sait pas trop qui la proclame, qui en tout cas une sorte de propagande qui nous empêche d'être humains. L'infirmière dans un hôpital qui doit soigner les gens, on considère que ce qui compte, c'est le nombre d'actes qu'elle fait. Et au fond, si elle le fait avec cœur, avec présence, ça ne compte pas, ça ne rentre pas dans les algorithmes. Est-ce que c'est tenable? Non, ce n'est pas tenable. Est-ce que les enseignants, on essaie de voir s'ils ont fait le programme, si les choses sont en ordre. Mais la qualité de présence, comme on ne la mesure pas, on a tendance à ne plus la prendre en vue. Et je crois que tout ça est en réalité irrationnel et grave, et une grave atteinte. Donc l'infirmière n'a presque plus le droit d'être un être humain qui aide quelqu'un qui souffre. Elle devient un agent qui doit faire un ensemble d'opérations. Et c'est pareil avec le professeur et dans nombre de métiers. C'est une situation qui n'est pas tenable. Nous ne sommes pas que des instruments utilisables par un système. Je crois qu'il est important qu'on nous rende et que nous regagnions chacun d'entre nous la grandeur de notre, la grandeur, c'est pas bien dit, la beauté de notre existence humaine. Chaque être humain est merveilleux en tant qu'être humain s'il s'autorise à être un être humain. Et je crois qu'aujourd'hui, cette phrase qui a l'air vraiment, je vois bien le côté très simpliste de ma phrase, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire de dire cette phrase. Donner à l'être humain le droit d'être simplement un être humain, parce que c'est ça, c'est déjà merveilleux. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous menace. Et qui nous menace souvent le plus, souvent sans que nous nous en rendions compte, parce qu'on intègre sans nous en rendre compte tous ces objectifs de performance qui nous donnent le sentiment qu'on n'a pas le droit d'être un être humain.
Je suis le même que t'as connu, celui-là même qui t'a ému. Je suis le même que t'as voulu, qui malgré lui sera déçu. Je suis le même que t'as aimé. Rien de meilleur, mais rien de pire. Et le même cœur, quoi que tu puisses en dire. Plein de tendresse, de maladresse. Je suis le même pour toi. Je suis le même que t'as connu. Je suis le même que t'as voulu. L'urgence s'appelle comme un pauvre gars perdu. Je suis le même que t'as aimé, qui te jure qu'il n'a pas changé. Je suis le même que t'as aimé. Je suis le même que t'as connu. C'est bien celui en qui t'as cru. Je suis le même que t'as voulu. Tu es pour lui le seul salut. Je suis le même que t'as aimé. Rien de meilleur, mais rien de pire. Et le même cœur, quoi que tu puisses en dire. Plein de tendresse, de maladresse. Je suis le même pour toi. Je suis le même que t'as connu, qui aujourd'hui avoue se sentir perdu. Je suis le même que t'as voulu. L'urgence s'appelle comme un pauvre gars perdu. Je suis le même que t'as aimé, qui te jure qu'il n'a pas changé. Je suis le même que
Alors voilà, foutez-vous la paix et commencez à vivre. J'aime tellement ce titre-là, ça a été publié aux éditions Édito. Vous êtes un peu comme notre Dany Laferrière ici au Québec. On disait de lui qu'il tirait des titres aussi vite que son ombre. Alors vos titres sont vraiment fabuleux.
Ah, mais j'ai mis longtemps. Moi, je ne tire pas aussi vite que mon ombre. J'ai mis très longtemps à trouver le...
Ah oui?
À trouver ça. Je vous dis, un jour, j'enseignais la méditation. Je voyais les gens qui avait tellement peur de ne pas réussir, de ne pas bien faire. Et puis ça m'a échappé. J'ai dit, mais foutez-vous la paix. Mais après, j'ai mis longtemps à... J'ai dit, foutez-vous la paix. J'ai vu que là, d'un seul coup, il comprenait qu'il se passait quelque chose. Mais je l'ai dit, mais je ne m'en suis pas trop rendu compte. J'ai juste vu qu'il se passait quelque chose. Et puis, ce qui a été déclencheur, c'est un jour, j'avais un rendez-vous avec une collègue de travail. Et je la vois arriver. Et elle était dans une très grande colère. Et elle me dit, j'ai vraiment honte, je suis très en colère. J'ai vu ce matin au bureau, j'ai vu un de mes collègues qui a harcelé son assistant, et c'était vraiment une telle violence que j'ai explosé en colère. Mais je lui dis, mais où est le problème? Il dit, vous vous rendez compte, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû. Et là, ça m'a échappé, je lui dis, mais foutez-vous la paix. Et j'ai vu que là, elle entendait quelque chose. Et vous voyez, c'est quand même très étrange aujourd'hui. On a l'impression que nos émotions, ce qu'on vit, on n'a pas le droit. On devrait toujours être lisse. Mais là, elle s'est mise en colère. Elle avait des raisons de se mettre en colère. C'est pas forcément génial de se mettre en colère, mais au lieu de se mortifier parce qu'elle s'est mise en colère, il faudrait essayer d'entendre pourquoi elle s'est mise en colère là. Et sans doute que ça a eu un impact très bénéfique dans son espace de travail qu'elle ait fait ça. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Nous n'avons plus le droit d'être comme nous sommes, ce que nous sommes. Nous sommes plus le droit d'être. Et je crois que c'est ça, à nouveau, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure sur mon livre. Comment retrouver le droit d'être aussi singulier que nous sommes. Mmh. Et on est tous singuliers, au fond.
Oui.
Mais on ne s'autorise pas à l'être.
Mais en fait, on veut souvent être. On aimerait peut-être être des robots, être un peu comme l'autre et toujours se comparer à l'autre, faire aussi bien que l'autre. Et c'est un danger, finalement.
Un très grand danger.
Parce qu'on perd son identité.
Oui, on perd le souffle de la vie en soi. Mmh. Et c'est vain parce qu'on. Oui, on devient comme des robots parce qu'on n'ose pas, et ça prend beaucoup de temps, et ça demande beaucoup de courage d'assumer notre propre humanité.
Vous dites que c'est en nous écartant des chemins tracés par d'autres, en sortant des cadres, on risque enfin de prendre un chemin nouveau, c'est-à-dire le nôtre. Et il y a une très belle histoire du château de sable dans votre livre, je ne sais pas si ça vous tente de
nous raconter. Ah oui, oui, bien sûr.
Ça,
quand j'étais enfant, j'ai participé à un concours de château de sable. Et alors, on a le château de sable, ça dure le concours dure une heure. J'étais à la plage chez mes grands-parents pendant l'été. Alors moi, je fais mon château de sable. Alors comme j'étais un peu studieux, j'avais vu dans un livre que les châteaux de sable, il y a des créneaux sur les murs. Donc je fais très scrupuleusement ma tour, mon créneau, mon mur avec les créneaux. Et puis après une heure, j'avais fait à peu près un quart du château de sable. Donc autant dire que ça n'avait pas très belle allure. Et je me retourne. Et je découvre, au stupeur, que j'étais le seul enfant à avoir fait un château dans le concours Château de Sable. Tout le monde a fait des choses différentes. Et c'est ma sœur qui a gagné. Alors elle avait gagné parce qu'elle a fait une coccinelle. Elle a fait une magnifique coccinelle. Elle avait pris un pot de confiture à la maison, de confiture de fraises. Et avec la confiture, elle avait fait ça pour les tâches de la coccinelle. Et évidemment, elle avait une super allure, sa coccinelle. Mmh. Et au fond, vous voyez, c'est ça le qui est au cœur de mon livre. Je croyais, en faisant mon château de sable, parce que c'était un concours château de sable, que je faisais tout bien, je n'osais pas oser quelque chose, et au fond, j'ai complètement échoué. Et ma sœur, qui a fait un truc en sable, elle a respecté des tas de règles, elle n'est pas restée dans son lit, elle a respecté des tas de règles, elle a commencé au début et tout, elle a fait quelque chose qui était complètement créatif, neuf, et qui a emporté le morceau.
Elle est sortie du cadre de la conformité.
Oui, elle est sortie du cadre de la conformité. Et de toute manière, en faisant ça, elle a beaucoup mieux répondu à la demande que moi. Et donc, dans le chapitre, j'appelle ça « Cessez d'obéir, vous êtes déjà intelligent ». Et des fois, à force d'obéir, on n'ose plus être intelligent, on n'ose pas inventer des choses, on est complètement... Et c'est ce qu'on dit des fois à des élèves, on dit vous êtes trop scolaire, il faudrait que vous soyez un peu moins scolaire, que vous osiez quelque chose. Mais dans la vie c'est souvent comme ça, c'est en osant, en prenant un risque, en partant à l'aventure, qu'on peut rencontrer quelqu'un pour de bon.
Et si j'imagine aussi que votre sœur a sûrement dû avoir plus de plaisir à créer que vous avec votre château de sable.
C'est clair, je n'ai pas pensé à ça, vous avez tout à fait raison. Moi j'étais vraiment... C'est ça, elle a eu un plaisir immense et moi j'étais un côté tellement un peu bêtement scolaire. Et c'est ça au fond, foutez-vous la paix, en voulant être scolaire, vous perdez du temps et vous avez moins de plaisir.
C'est ça. J'ai envie de vous poser une question que vous posez vous-même dans votre livre. Comment nous est venue cette conviction que la sagesse, la philosophie, la spiritualité sont des voies qui, bien empruntées, feraient enfin de nous des êtres sans désir, donc sans tourment?
Ça, c'est un malentendu tellement profond. Pour la plupart des gens, on rêve d'une sagesse. Et cette sagesse, elle est complètement éthérée. Pourtant, quand on regarde les grands sages, on regarde Gandhi, Martin Luther King, Mandela, c'était pas du tout notre idée de sage. C'est des êtres qui ont traversé des épreuves.
Qui ont des vécus.
qu'on su dire non, qui sont mis en colère. Gandhi parle beaucoup de la force de la colère. Et puis, donc, la réalité de la sagesse n'a aucun rapport avec notre idée de la sagesse. Nous, on a un rapport complètement éthéré et abstrait. La sagesse est beaucoup plus incarnée et vécue. Et puis après, bien sûr, on peut dire que Mandela, à la fin de sa vie, manifeste une forme de sagesse dans le fait qu'il a une capacité de pardon aux Afrikaners, de capacité de très vaste. Mais ça, c'est après des décennies de travail sur lui-même. Et nous pensons que si nous ne sommes pas comme il est au bout du compte, ça ne va pas. Mais lui, on acquiert, disons, une forme de sagesse qui n'est pas éthérée, de vraie sagesse, qu'au prix de rencontrer des difficultés, d'accepter d'être ce que nous sommes, pas en voulant jouer un rôle. Et donc, je crois que là, oui, c'est un très, très grand malentendu. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis assez critique à tout un certain mode de sagesse que je trouve beaucoup trop éthéré. Et je voudrais engager les gens à plus d'enthousiasme, de passion, d'engagement, de risque que cet idéal, à mon avis, un peu mort d'une sagesse, racie, terne.
Ouais. Enfin, il n'y a personne de lisse, il n'y a personne qui n'a pas vécu des épreuves, qui n'a pas vécu. Et à partir d'un. Et si on fait un retour sur ce qu'on a vécu, on peut y découvrir ces perles de sagesse-là, justement.
Absolument. Quand on demande aux gens qui ont vécu des épreuves, comment ça s'est pas après coup ? Comment c'était pour eux ? La plupart des gens disent que ça a été libérateur, que ça les a permis des remises en question et que ça a été une chance. Quand on a une difficulté où on a l'impression que c'est la fin du monde, on est désespéré et souvent on se rend compte que ça nous permet de grandir et de croître. Vous voyez, c'est ça, c'est absolument central. Un monde lisse dans lequel il ne nous arriverait rien, une vie complètement rangée, c'est une vie tellement ennuyeuse.
Ouais.
Et la vraie vie, c'est comment on fait avec les épreuves pour grandir, pour aller de l'avant, pour vivre. Vous voyez, ça c'est tellement. Il y a une nouvelle de Franz Kafka que j'aime beaucoup, le célibataire entre deux âges. Alors il est dans sa petite maison et il réfléchit que peut-être comme il est très seul, ce serait bien qu'il prenne un chien. Puis après il dit mais le chien il va avoir les pattes sales, il va rentrer à la maison, ça va pas être propre. Et puis après je risque de m'attacher à lui et puis après s'il est malade, il faudrait l'emmener chez le vétérinaire. Oh mon Dieu, tout ça c'est beaucoup trop de tracas, restons comme ça.
On s'empêche de vivre.
Et on finit, voilà, il n'a plus aucun problème, mais il n'est plus dans la vie. Vivre, c'est prendre un risque. Si vous voulez vivre confortablement et dans la sagesse, n'aimez pas, ne sortez pas de chez vous, ne faites plus rien. Regardez la télévision toute la journée. Si vous voulez vivre une vie plus vivante, alors ça implique de prendre des risques. Et je suis très 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 embarrassé de tout un discours sur la sagesse qui nous empêche complètement, oui, de nous autoriser à être et à vivre ce que nous sommes et de voir à ce moment-là tous les possibles qu'il y a que nous ne suspectons pas. Car au fond, on retrouve déjà ce que j'ai mentionné tout à l'heure en parlant de Kahneman sur les sciences économiques, mais dans la sphère privée, c'est la même chose. Les aventures de la vie, les incidents de la vie, les rencontres contiennent des possibles que nous ne pouvons pas savoir à l'avance. Est-ce que nous sommes ouverts à ces rencontres, à ces possibles, à ces hasards, ou pas ? Et je crois que foutez-vous la paix, c'est épouser, embrasser les possibles qui ne peuvent pas manquer de venir à vous, si vous vous foutez la paix. Mais si vous ne vous foutez pas la paix, vous allez manquer sans arrêt des possibilités. Vous allez vivre une vie tellement amoindrie.
Oui. Vous dites aussi dans votre livre de cesser, ben vous ne dites pas, ce n'est pas une injonction comme telle, mais de chercher à tout comprendre. Ce qui importe, c'est surtout de découvrir le pouvoir de l'ignorance.
Ah oui, alors ça, parce que j'ai remarqué que des gens qui avaient des difficultés, qui sont en souffrance, des fois ils vous expliquent parfaitement qu'ils ont tout compris à leurs problèmes, ça vient de ma mère, ça vient de la société, il y a ça, ils vous parlent, mais ça change rien à leur malaise, à leur manque de communication, à leurs difficultés dans la vie. Et je me suis rendu compte que des fois, il ne s'agit pas juste de comprendre, il s'agit à nouveau d'être. Il s'agit de faire confiance dans la capacité. Donc évidemment, les titres de mes chapitres sont souvent un tout petit peu provocateurs pour essayer d'ouvrir une autre entente. Donc nous, on nous explique depuis enfant, il faut que tu comprennes davantage comment tu fonctionnes, comprends. Et on oublie la capacité juste d'être. Mon livre repose sur l'idée un peu surprenante qu'il y a des moments où on ne fait rien, on s'autorise à être un être humain, à sentir ce que l'on sent. Ça semble extérieurement une perte de temps, inutile, rien. Et quand on le fait, on se rend compte qu'au contraire, c'est le summum de la vie. Et alors moi, je suis devenu très étonné d'un paradoxe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je crois qu'on vit dans un étrange paradoxe. Pour la plupart des gens, nous avons le sentiment que si je cours en étant très stressé, je suis vivant parce que là, je fais plein de choses. Que si je reste sans rien faire quelques minutes, là, c'est la mort. Je bouge pas, c'est la mort. Or, en réalité, en courant sans arrêt, parfois, je ne suis plus du tout en rapport à la vie. Je suis en train de m'épuiser.
Et on ne gagne pas plus de temps non plus.
Non, je suis en train de m'épuiser, c'est le burn-out, donc je ne gagne pas plus de temps. Je vais être arrêté pendant 3 mois parce que je ne pourrai plus me lever. Je suis en train de juste de tuer la vie en moi. Je fais un peu n'importe quoi parce que je suis pris par la peur. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me racontait qu'il était pris par un burn-out. Il était tellement terrorisé par son supérieur hiérarchique qui lui mettait une pression folle, qu'il me raconte qu'il n'arrivait plus rien à faire dans la journée. C'était un jeune homme de 25 ans, il sortait d'une école de commerce, c'était son premier boulot, et donc il était pris dans l'idée de vraiment de vouloir réussir. Donc il travaillait absolument comme un fou. Et il me raconte, comme les jeunes peuvent parler, c'était très touchant, il me dit, donc il m'appelait, à l'instant il m'appelait, la pression lâchait, j'aurais fait répondu à ses demandes. 5 minutes plus tard, la pression revenait et il me racontait, c'est que je trouvais très drôle, il disait je ne pouvais plus rien faire sans cette pression, je ne pouvais même plus faire l'amour avec ma femme. J'ai trouvé ça vraiment très, 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 très parlant comme manière de montrer comment cette pression l'écrase. Et si on lui avait dit arrête-toi 5 minutes, il aurait dit mais non, mais je ne me sens plus vivant. Et en fait, c'est l'inverse. En ne faisant rien, on redevient pleinement vivant. Mais nous ne savons plus ce que ça veut dire. Nous ne savons plus partir en vacances quelques minutes par jour. Nous ne savons plus prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Nous ne savons plus avoir un geste de bienveillance envers nous. Par exemple, c'est pareil. La bienveillance envers nous est considérée comme une forme de faiblesse, de mièvrerie. On a l'impression que si je veux faire quelque chose, il faut que je me foute des coups de pied au cul. Parce que si je suis gentil, ça ne va pas marcher. Ça n'est pas vrai. Se donner des coups de pied au cul nous torture, nous fait du mal, nous empêche de réagir avec justesse. Si je frappe un enfant pour qu'il apprenne, est-ce qu'il va apprendre mieux ? Non. Est-ce que moi, si je me frappe, je vais apprendre mieux ? Non. Or, nous vivons en pensant qu'il ne faut quand même pas battre mes enfants, mais moi, c'est bien si je me bats, sinon je ne ferai rien. Et donc, mon livre est vraiment une invitation à aider les gens à retrouver un geste d'authentique bienveillance qui va les apaiser pour de bon.
On va écouter justement « Faire la paix avec l'amour » de Danny Bédard.
J'ai pas demandé à venir au monde. Je veux pas non plus rester dans l'ombre. J'ai pas choisi celui que j'aime. Je veux pas non plus cacher ma paix. Je suis pendu à tes lèvres. J'entends la porte qui se referme. J'éteins le soleil qui se lève. T'as jamais su calmer ma fièvre. T'as jamais pu lever les poings. Pourtant je pleure toutes les nuits. Ces blessures-là, je les guéris. J'ai l'impression que ça va trop loin. Oh, j'ai dû combattre mes envies. Faire semblant d'aimer la vie. Yeah. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour. De reconnaître qui je suis. Fais la paix avec l'amour. J'ai peur de ta voix et du noir. Noir qui longe le désespoir. Celui-là même qui me poursuit et qui me plonge dans l'oubli. J'ai pas demandé à venir au monde. Je veux pas non plus rester dans l'ombre. J'ai pas choisi celui que j'aime. Je ne fais qu'avec ma peine. J'ai dû combattre mes envies et faire semblant d'aimer la vie. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour pousser la porte et voir mon jour, de reconnaître qui je suis,
de faire la paix avec l'amour.
Des envies de faire semblant d'aimer la vie. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour, de reconnaître qui je suis,
de faire la paix avec l'amour.
Alors voilà, je suis de retour avec Fabrice Midal, philosophe et auteur. Il vient d'écrire « Foutez-vous la paix ». J'ai envie de dire une fois pour toutes, mais bon, c'est pas sur le titre. Alors donc, « Foutez-vous la paix » et « Commencez à vivre ». Ça a été publié aux éditions Édito et étrangement, il y a une petite coccinelle sur la page couverture qui fait sûrement référence au château de Sable.
Absolument.
Absolument, c'est ça.
En plus, je me suis dit, ça porte bonheur, les coccinelles.
Ben oui, tout à fait.
Je pense que « Foutez-vous la paix », ça vous porte bonheur.
Oh, c'est beau. Fabrice Midal, bon, vous êtes ici au Québec pour plusieurs raisons, dont entre autres pour parler de ce livre-là, mais aussi il y a une belle conférence qui s'en vient samedi au Palais des Congrès. J'y serai d'ailleurs. Parlez-nous-en un petit peu.
Ah, je pense que c'est un événement extraordinaire qu'organise Christine Michaud, qui organise une journée au Palais des Congrès. Et ce que je crois vraiment une idée très très importante qu'a Christine Michaud, c'est de faire une réunion où on est des centaines de personnes, je crois qu'on sera, 2000,
milliers,
qu'on sera 2000 personnes. Mm-hmm. Et je pense que dans notre temps qui est souvent difficile, de sentir l'énergie de centaines de personnes qui ensemble essayent d'ouvrir leur cœur et de vivre une expérience commune, et c'est extrêmement puissant et extrêmement fort. Ça donne une énergie, c'est pas juste entendre quelqu'un, même s'il dit quelque chose de génial et tout ça, mais de faire ensemble l'expérience, d'être ensemble porté par la même quête, vouloir que ce monde soit meilleur, qu'il y ait plus de place donnée à la bienveillance et à la source du bonheur pour l'humanité. Je trouve que c'est des moments très très forts et je suis vraiment donc très très heureux de participer à cette journée et je ne peux qu'encourager les auditeurs et les auditrices, je sais qu'il reste encore des places, d'y aller parce que ça porte en avant. Il se passe quelque chose de magique dans ce type d'événements.
ChristineMichaud.com.
C'est clair.
Pour avoir
après,
des informations.
Il y a toutes les informations aussi. J'ai mis aussi toutes les informations sur ma page et mon site, sur ma page YouTube, Facebook. Sur ma page Facebook, il y a tout ça. Et samedi après-midi, moi, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la méditation, je ferai une présentation du travail de l'École occidentale de méditation samedi après-midi.
Et à donc, l'École occidentale, vous
voilà,
dites, c'est ça?
Moi, j'ai fondé l'École occidentale. J'appelle l'École occidentale pour montrer qu'il ne s'agit pas de faire de la méditation comme en Orient, comme au Japon. On est occidental, donc on veut juste intégrer la méditation dans nos vies. Et donc, j'ai fondé l'école il y a maintenant une dizaine d'années, dans lequel je forme les gens à la pratique de la méditation, en dialogue avec la poésie, la littérature, l'art, la philosophie, les questions de société, de montrer que la méditation, c'est pas un truc à part.
Hermétique
ou un truc juste à part pour essayer d'être calme et cool, mais que c'est vraiment se retrouver un rapport plus sain à l'existence et à la vie dans notre quotidien, que la méditation n'a de sens que si on peut l'intégrer pour de bon. Et donc, je présenterai l'école samedi après-midi. Et il y aura un stage, le premier stage de l'école qui sera organisé à l'automne, où certaines des personnes que j'ai formées à la méditation viendront organiser un stage de 5 jours pour aider les gens qui veulent vraiment rentrer dans la pratique, de le faire et d'avoir les outils pour vraiment l'intégrer et pouvoir le vivre dans leur vie quotidienne.
Et que cette école-là a un lieu physique? Est-ce qu'on
Il y a des lieux qui sont loués à différents endroits sur Montréal. Il y a une antenne de l'école dans tous les pays francophones, en Suisse, en Belgique et en France. Donc je suis très content qu'il y en ait maintenant une à Montréal. Et il y a aussi énormément de choses en ligne. On a beaucoup de membres dans tous les pays. En fait, hormis même les pays francophones, on a beaucoup de membres qui dans le monde entier qui sont membres de l'école parce qu'il y a beaucoup de cours en ligne qui présente la méditation, comment l'articuler avec toutes les questions que j'ai dites.
Est-ce qu'on doit aller sur votre site, donc voilà, fabricemidal.com?
Voilà, voilà, et là on trouve absolument toutes les indications sur la page Facebook. Là, dans les deux cas, il y a toutes les indications pour être membre de l'école ou pour tous les enseignements que je donne.
Donc il y aura une conférence sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura aussi des ateliers ou si vous...
Alors moi, samedi, je ferai donc une présentation. Donc là, je guiderai quelques méditations guidées, samedi après-midi. Et je présenterai vraiment le sens du chemin de la méditation comme je l'ai pensé, comme je la transmets.
Et comme vous la vivez aussi.
Absolument.
Absolument. Donc j'aurais dit quand même le titre du livre, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Évidemment, ça a été publié aux éditions Édito. Là, Fabrice Midal, on va parler de la perfection. Quelle est votre opinion par rapport à cette... notion de perfection qui semble si importante, probablement très rationnelle aussi.
Je pense qu'on a l'idée vraiment qu'on doit être parfait. C'est la même idée que je parlais du petit garçon qui veut apprendre à marcher, qui n'a pas le droit de tomber. Il y a vraiment l'idée que la moindre faiblesse est une faute, alors qu'au fond, l'échec est une possibilité de rebondir, d'apprendre. Aucun grand scientifique, aucun grand artiste n'a fait un travail important sans échouer. Je m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup la peinture. J'aime beaucoup regarder souvent les œuvres des peintres au début. C'est tellement mauvais. Vous regardez, là, j'ai regardé les œuvres de Pollock avant qu'il devienne Pollock, mais c'est tellement mauvais. Les œuvres de Cézanne avant qu'il devienne Cézanne, c'est tellement mauvais. Si c'était dit, oh mon Dieu, je fais des mauvais tableaux, j'arrête de faire de la peinture, on n'aurait eu ni Cézanne ni Pollock. Mais alors. Et l'échec est la condition de possibilité d'avancer. Donc cette idée de perfection est une idée mais complètement contraire à la croissance. Un enfant qui voudrait faire des lettres, qui voudrait colorier une forme sans jamais déborder, il apprendrait jamais à se synchroniser et à pouvoir faire un geste sûr. Donc l'idée de perfection est contraire à l'existence humaine. Donc c'est une idée à nouveau irrationnelle, puisque c'est contraire au fonctionnement même de l'esprit humain. Nous apprenons de nos erreurs. Les scientifiques se sont plantés des dizaines de fois avant de trouver la bonne approche. Et c'est grâce à leurs erreurs qu'ils nous apprennent. Donc vraiment, je crois que là, il y a quelque chose de complètement... nous sommes vraiment dans une erreur et une illusion extrêmement... douloureuse. C'est très très douloureux parce que du coup nous en voulons, et alors moi je vois qu'ils enseignent la méditation, les gens veulent être parfaits, donc ils ont l'idée qu'être parfait ça voudrait dire faire le vide dans la tête, être calme tout de suite et atteindre être dans un état de félicité, mais ça c'est pas la méditation. Et du coup ils se sentent très mal de ne pas réussir à correspondre à l'idéal de ce qu'ils voudraient être. Et donc on voit bien comment ça les empêche de faire quelque chose, ça les empêche de se rencontrer et ça les fait de se torturer toujours plus d'avant. L'idéal de perfection que nous avons nous torture et est une forme d'agression et de violence extrêmement sournoise contre nous-mêmes.
Qu'est-ce qui fait, Fabrice Midal, qu'il y a une si tant grande recherche chez les gens? Les gens ont besoin d'une quête, de faire des quêtes, de se retrouver, comme si l'existence en soi n'était pas viable comme telle.
Je pense qu'il y a quelque chose, nous portons tous un trésor en nous, mais pour trouver ce trésor, il faut réussir à ce geste de détente qui nous permet de trouver que le trésor est là. Et tous les contes racontent, il y a ce conte très connu, qui est un des plus beaux contes d'un homme qui est dans un petit village et il fait le rêve que dans une ville lointaine, sous un pont, il y a un pont à tel endroit et sous le pont, il y a un trésor. Alors il se lève, il part en chemin pour trouver le trésor. Donc il avance, il traverse des embûches, et il arrive, et là il y a un gardien du pont, et le gardien lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « ah voilà, je viens, il faut que je creuse au pied du pont pour trouver un trésor. » Le gardien lui dit « vous êtes complètement fou, c'est impossible de creuser ici, on ne vous laissera pas, mais vous croyez dans les rêves, mais c'est complètement idiot. Moi j'ai fait un rêve, un jour, que dans un village, il y a un arbre, et il y a une maison, et puis il décrit le village, et c'est exactement le village d'où vient l'homme. Et il dit « au pied de l'arbre, il y a un trésor. Mais vous pensez que je vais aller jusque là-bas, aller le chercher ?» Et le vieil homme comprend qu'il y a un trésor au pied de l'arbre de son village. Donc il retourne chez lui, il creuse sous l'arbre et il y a un trésor. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est qu'il faut aller à l'autre bout pour découvrir que le trésor, il est chez soi.
Exactement.
Mais il faut quand même faire ce chemin-là. Et c'est ça tout le paradoxe. Et je crois qu'il y a un trésor en chacun d'entre nous, mais nous ne pouvons le trouver que si nous revenons à la maison. Et comment on fait pour entrer à la maison ? Je crois que c'est ça qui est absolument central. Et donc tous les êtres humains sont portés par cette quête de retrouver ce trésor que tout le monde sent qui existe en nous. Et on le voit bien dans les enfants, qu'il y a un trésor qui les habite. Mmh. Mais en vieillissant, on a l'impression que ce trésor, il n'est pas là en nous. Et ça participe encore de cette manière dont on se dénigre. Je vous ai dit au début, je suis absolument convaincu que nous nous dénigrons beaucoup trop, que nous sommes beaucoup trop durs envers nous-mêmes. Et mon livre est une invitation à aider les gens à retrouver ce trésor. Et c'est vraiment, je crois, l'écho principal que j'ai des gens qui lisent le livre et disent « Ça y est, j'ai vu par où je me rendais la vie impossible et par où je peux retrouver quelque chose, oui, de cette beauté très simple d'être un être humain.
Mmh. » Dans votre livre, vous parlez aussi de cesser de se torturer, bon, c'est un peu ce dont on parle, et d'être son meilleur ami.
Ouais, ça, je me souviens, j'étais un jour dans le métro et à Paris, et puis une femme se lève pour sortir, et elle s'est levée trop tard, et la porte s'est fermée devant elle, et elle s'est écriée à haute voix, c'était absolument incroyable, « Quelle conne je suis !» Et ça m'a beaucoup frappé, je me dis, jamais je le dirai à voix haute, mais combien de fois dans la semaine je me dis quel con je suis, parce que j'ai oublié le café le matin, parce que j'ai pas fait telle chose pour telle personne, parce que j'ai oublié de répondre à tel mail. Et je me dis, mais pourquoi on se parle? Et là, ce coup, le fait qu'elle ait dit à haute voix, je me suis rendu compte, mais c'est tellement violent comme manière de parler. Et au fond, on pourrait se dire, ah mon pauvre, t'as oublié le café, ça arrive à tout le monde. Si c'était mon meilleur ami qui avait oublié le café, qu'on partait en vacances ensemble, lui qui dit, écoute, je suis désolé, ce matin, j'ai oublié le café, je dis, mais c'est pas grave, on va aller le chercher. Mais si c'est moi, je me dis, mais quel con je suis, et on s'en veut, vous voyez? C'est ça qui est vraiment... Et je crois qu'il faut apprendre à devenir son meilleur ami. Je crois que c'est absolument, au lieu de nous torturer... Vous voyez, c'est quand même incroyable, il y a des lois qui existent au Québec que les gens doivent pas travailler plus qu'un certain nombre d'heures et qu'il faut laisser les gens dormir, oui. Et nous, combien d'entre nous ne nous laissons pas dormir parce qu'on trouve qu'on a trop de choses à faire et que c'est pas bien? Il y a des lois qui existent, qu'on doit pas harceler les gens. Et nous, combien de fois par jour ou par semaine on se harcèle? Donc je trouve qu'il faudrait arrêter de se harceler nous-mêmes et d'apprendre à devenir vraiment notre meilleur ami, qui ne veut pas dire abandonner les exigences profondes, mais avoir ces exigences à partir d'une attitude de bienveillance et non de punition. Il n'y a aucune raison de nous punir.
Mais ça prend quand même une certaine présence aux pensées qui sont là et qui nous agitent à cœur de jour.
Oui, ça demande... ce que j'ai décrit dans le livre, de décrire les différents mécanismes qui fait que les gens peuvent se les repérer. Et ce qui me touche beaucoup dans les échos que j'ai du livre, c'est que les gens me disent « Ah oui, moi c'est surtout tel chapitre, et puis l'autre c'est tel autre chapitre. » Les gens voient que... différents aspects de la manière dont ils se torturent. Et en reconnaissant, ça ouvre une libération. Et je crois que j'ai écrit ce livre pour vraiment que ça aide très concrètement les gens à pouvoir retrouver ce bonheur d'être.
Alors, Fabrice Midal, vous m'avez confié tout à l'heure que vous aimiez beaucoup la Bolduc.
Ah oui, j'adore.
C'est incroyable.
C'est tellement plein de vie, c'est tellement libre.
Ça ne peut pas être plus québécois.
C'est parce que j'adore le Québec.
Ben voilà. Alors, on va écouter « ça va venir, découragez-vous pas ».
Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir puis ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi j'ai toujours le cœur gai et je continue à te lutter, d'attendre ta terre les temps d'être dans les deux, 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 dans les deux. On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal, dans la province de Québec, on mange à mon autre pain sec, y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États, essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas, moi j'ai toujours le cœur gris, et je continue à faire lutter, dans les dents, de ce temps ici pour se nourrir à crédit. Faut pas que ça monte à la grosse. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger. Je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Te tente, tilly, tante, tom, tiddly, tante, tom, darom, tilly, diddlom, darom, tilly, diddlom. Me voilà mal à manger, j'ai des trous d'amis suyés. Mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousue. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que Panawire. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. T'es tante, t'es les tante, t'es dans les 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 t'es dans les. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'essaie vite de casser. Ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, ma liste prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Tire un petit tire les tons, tire un dans le tire. Tire les tons, tire un dans le tire. Tire les tons, tire un dans le tire. Tire les tons, tire.
Alors voilà, c'était la Bolduc, Fabrice Midal, que vous aimez tant, et on turlute ensemble depuis le début de l'émission.
C'est clair, c'est ça, foutez-vous la paix et turlutez, c'est ça.
Ça serait le nouveau titre de titre de votre prochain livre, peut-être.
Mais vous voyez, c'est formidable. Toutes les épreuves lui tombent dessus et elle garde ses talents de vie.
Ouais.
Et parce qu'il y a un sens de l'humour et de rythme et je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dedans.
Ouais.
Moi, je préfère cette sagesse-là, la sagesse édulcorée, où il faudrait devenir indifférent, zen, plus rien ressentir, vous voyez, ça je trouve, c'est il y a beaucoup plus de vie là-dedans.
Ouais. Fabrice Midal, je redis encore le titre de votre livre, Foutez-vous la paix et commencez à vivre, aux éditions Édito. Et je trouve ça intéressant qu'on entende la Bolduc parce que il y a un thème que vous, dans votre livre, qui est cessez de vous réfréner, désirer. Et c'est un petit peu ça, dans le fond, ce qu'elle fait, la Bolduc, c'est qu'elle désire la joie et elle ça. La propage partout dans le monde.
Oui, et puis vous voyez, on a essayé de couper plusieurs idées reçues qui de ce qu'on croit qu'on devrait faire, et il y a beaucoup cette idée reçue qu'on devrait être calme, que la sagesse, ça serait de plus avoir trop de désirs et je crois que c'est une grande erreur, que ce qu'il nous faut, c'est retrouver l'allant du désir qui nous pousse en avant et qui nous fait oser nous rencontrer. Si j'ai pas de désir, j'aurais aucune envie de vous parler. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose de cette beauté du désir, de cette beauté de nous pousser en avant, de rencontrer les autres, qui est magnifique et qu'il faudrait encourager.
Oui, et moi j'aimerais beaucoup que les gens encouragent cette lecture en se procurant ce livre « Foutez-vous la paix, commencez à vivre » Fabrice Midal aux éditions Édito. On peut évidemment aller visiter son site pour avoir toutes les informations qu'il faut, www.fabricemidal.com. Et évidemment, toute ma gratitude, Fabrice, pour cet échange. On a toujours des échanges très profonds et ce fut de nouveau un grand plaisir d'échanger avec vous. Et mon Dieu, on va se foutre la paix maintenant.
Merci beaucoup.
Et un gros merci aussi à Vital Côté, à la mise en onde. C'était Marie-Lou Brousseau et je vous dis à la semaine prochaine.